Bonjour à tous. Donc on commence. Excusez-moi, je me lève pas avec le micro. Je me présente, Benjamin Talmar. Donc je suis technico-évangéliste, conseiller technologique en français sur la partie. C'était bon pour vous ? Non, mais c'est pas grave. On va recommencer. Comme ça, je la fais version longue. Donc conseiller technologique. Moi, je m'occupe des éditeurs de logiciels. Je sais pas s'il y a des éditeurs de logiciels dans la salle. Des personnes qui travaillent chez des éditeurs de logiciels. Je vois quelques oui. Venez prendre ma carte de visite à la fin de la session. J'ai du temps à passer avec vous. Ok, donc bonjour à tous. Benjamin Talmar, je suis conseiller technologique sur Windows Azure et j'ai le plaisir d'animer cette session avec Jérémy.
Bonjour à tous, donc, je suis Jérémy Alès, je travaille chez Thales à Grenoble et donc on va animer cette session ensemble de 45 minutes.
Voilà, donc 45 minutes sur Windows Azure Mobile Services. Pour information, normalement c'est que la deuxième fois que vous voyez cette slide, vous allez la voir plein de fois, mais je passe un petit peu de temps dessus. C'est important, notamment pour moi, ça va me permettre d'avoir une augmentation à la fin de l'année. Ou alors mon chef saura quoi me dire quand il me dira que j'ai pas d'augmentation, donc aidez-le. Et apparemment, il y a des lots à gagner également. Donc très rapide introduction sur Windows Azure Mobile Services, après on va essayer de se concentrer sur des démos. Donc globalement, le principe, c'est de créer un back-end de manière très simple pour gérer tout un ensemble de services qui vont pouvoir être centralisés sur Windows Azure à destination de vos applications. Donc ces applications, ça peut être des applications Windows, des applications Windows Phone, iOS, Android, même des sites web finalement. Il existe un certain nombre de SDK. Dès le moment où vous êtes connecté à Internet, vous pouvez vous connecter à ce back-end. Ça va vous éviter de créer un back-end de A à Z vous-même en prenant une machine virtuelle sur laquelle vous allez créer potentiellement un site ASP.NET Web API pour créer une API, ou alors vous allez devoir fédérer des providers d'identité externes. Tous ces services sont là pour vous faciliter la vie, c'est vraiment la notion de simplicité. Généralement, on a conçu ce service vraiment à destination des développeurs d'applications clientes qui ne sont pas habitués à créer des back-ends. C'est vraiment ça la philosophie. Donc pour parler des différents services, on a le stockage de données avec des scripts que vous allez pouvoir développer à chaque fois qu'une donnée va être créée, va être supprimée, va être accédée, etc. On va y revenir. Vous avez la gestion des push notifications, donc ce qu'on voit de plus en plus sur les différents devices avec lesquels on travaille ou on joue tous les jours, c'est vraiment cette notion de notification qui est envoyée du serveur au client. C'est pas forcément simple à mettre en place dès le moment où on a plusieurs dizaines de milliers, centaines de milliers de devices à gérer. Bah, tout ça, c'est un travail qu'on a fait pour vous. Vous allez l'utiliser en tant que service. L'authentification, même principe. Si vous étiez en plein air, je l'ai montré tout à l'heure. Le but du jeu, c'est de pouvoir centraliser la configuration de différents fournisseurs d'identité, de différents identity providers, comme par exemple les comptes Microsoft, les comptes Facebook, les comptes Windows Azure Active Directory également, qui sont peut-être les comptes que vous utilisez, vous, pour vous connecter à Office 365, vous ou vos clients, quand vous êtes éditeur de logiciels. Vous allez pouvoir mettre en place de la logique serveur, c'est pas simplement stocker des données, faire des get, des put et des delete, c'est aussi toute une façon de créer de la logique en Node.js et très bientôt en C# pour permettre de faire du métier directement sur le serveur pour pas avoir à faire ça sur l'application cliente. Et ça va être fait de manière vraiment hautement scalable. Si vous avez 10 devices à gérer ou si vous en avez, 10 millions, globalement, Windows Azure Mobile Services est censé pouvoir vous aider jusqu'à des échelles de ce genre. Bien sûr, ça permet aussi de centraliser les logs. Il y a des notions de diagnostic, de monitoring qui sont intégrées à la plateforme. Et une chose qui existe également, c'est les tâches planifiées pour pouvoir, par exemple, nettoyer des données de manière récurrente, etc. Ou envoyer un email, on va le voir tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est vraiment très rapidement une introduction. On va passer tout de suite à une démonstration qui va se baser sur une application que tu as réalisée, Jérémy.
Tout à fait. Donc on s'est dit, plutôt que de vous montrer plein de petits bouts de code éparpillés, on va faire une démo d'une appli qui met en œuvre tous ces services, et ensuite on va se plonger dans le code pour voir comment tout ça fonctionne. Donc vous allez être acteur, ça tombe bien, ça va vous permettre d'être actif un petit peu. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont l'habitude des réunions trop longues, des réunions pénibles, où on a l'impression qu'on a été invité par erreur, qu'on ne devrait pas y être ? Est-ce que, si vous levez la main, est-ce que vous avez déjà été dans une réunion, moi c'est mon cas, où c'était vraiment trop long et j'ai l'impression de perdre mon temps ?
J'espère que ce n'est pas le cas des sessions de TechDesk par contre. Hein.
Alors, du coup, on a créé cette application pour ça. On s'est dit, quand on a plein de gens en réunion, on dépense de l'argent pour rien. Et l'application qu'on a ici, Pay My Meeting, elle va permettre de résoudre, ou en tout cas de prendre conscience de ce problème. Donc, c'est une application Windows 8 que j'ai lancée sur mon PC ici. Je suis dans la peau de l'organisateur de réunion et je vais créer un meeting qu'on va appeler de manière très originale Tech Days. C'est le moment où là, j'espère très fort qu'il y a du réseau. Et là, vous allez pouvoir sortir vos smartphones et vous allez pouvoir flasher ce code. Alors, je vous invite à le faire. Je vais le faire en même temps avec mon smartphone. Là, le scénario, du coup, c'est j'organise la réunion pour vous. Vous venez dans la salle pour faire la réunion avec moi. Vous prenez votre smartphone, vous flashez le code. Vous allez être envoyé sur un site web. Sur le site web, vous allez pouvoir saisir votre prénom et le type de votre job. Est-ce que vous êtes le patron de la boîte? Est-ce que vous êtes un architecte, un développeur senior ou junior? Donc, je vais rejoindre la réunion en tant que Jérémy et je vais dire que je suis un architecte. Et je vais appuyer sur rejoindre. Vous allez voir qu'il va se passer quelque chose. En haut, là-bas, il y a une notification push qui est arrivée sur l'application Windows 8 en me disant que Jérémy a rejoint la réunion à un prix de 1,31€ la minute. Et là, j'ai d'autres personnes qui arrivent. Mathieu, JMH, il y a quelqu'un qui coûte 3,13€.
Un CEO dans la salle, c'est impressionnant.
Donc, et sur votre smartphone aussi, on pourra en parler à la fin si il nous reste du temps. Si vous regardez bien, une fois que vous avez rejoint la réunion, la page, elle se met à jour aussi. C'est-à-dire que moi, là, je viens de voir, ça a passé de 5 à 6 attendees. Donc, c'est-à-dire, il y a aussi de l'information qui remonte sur le device automatiquement sans avoir à aller faire du pooling. Donc voilà, là on commence à avoir pas mal de monde dans la réunion, une bonne réunion à 8 personnes, on va démarrer. Et avant que je démarre, il fallait que je parle d'autre chose. Effectivement, le scénario que je vous ai fait essayer, c'est le mode, vous êtes invité, vous flashez le code, mais on a voulu aussi montrer le mode où je suis dans l'entreprise. Et dans l'entreprise, je vais me connecter avec l'application qui est déployée sur le store d'entreprise, qui est Pay My Meeting. Ici, j'ai une étape d'authentification que vous n'avez pas eu à faire. Et sur cette authentification, tout à l'heure, dans la plénière, vous avez vu, on peut intégrer très facilement des providers. Je vais pouvoir m'authentifier avec Twitter. Donc là, j'ai configuré une authentification Twitter. Je vais venir saisir mon nom d'utilisateur. Je vais venir cacher pour pas que vous voyez mon mot de passe. C'est très, très artisanal. Tac. Ah, en plus, alors là, j'ai fait fort. Alors ça, je l'avais pas prévu en répétition.
Tu vas le changer juste après la session.
Je vais le changer juste après.
Non,
non, mais je vous fais confiance quand même. Bon, je m'authentifie. Donc là, j'ai délégué à Twitter de gérer l'authentification pour moi. Je suis revenu et j'ai pu avoir un identifiant de réunion. Ensuite, je vois les meetings en cours, Tech Days, et je vais pouvoir rejoindre à nouveau. OK ? Bon, alors là, on commence vraiment à être nombreux. C'est temps de démarrer la réunion. Et qu'est-ce qu'on a une fois qu'on fait ça? On a simplement un compteur qui défile et on sait combien on utilise d'argent pendant la réunion. Okay. Donc voilà, c'est juste ça le scénario. Je vais laisser tourner, comme ça on aura une idée à la fin de combien, quelle quantité d'argent on a dépensé. Oui, je veux bien. Alors, comment tout ça fonctionne au niveau de l'architecture? Je vais prendre ta souris. Alors, le cloud, forcément, c'est Windows Azure. Au centre, vous vous en doutez, ce qui orchestre tout ça, c'est Windows Azure Mobile Services. La première appli que je vous ai montrée, c'est une application Windows 8. Donc, on a créé une application Windows 8 qui utilise un SDK Windows 8 en C# pour se connecter à Azure Mobile Services. On a vu également des notifications push. On l'a fait là dans le mode Windows 8. Donc, on a utilisé le service de notification push de Windows qui s'appelle Windows Notification Services. On a vu également une application Windows Phone qui a mis en œuvre le SDK Windows Phone pour accéder au back-end. Cette application Windows Phone, elle fait de l'authentification. Je vous ai montré avec Twitter. On verra aussi pendant la démo qu'on peut brancher un Windows Azure Active Directory. Et puis, vous, sur vos smartphones, vous avez utilisé simplement un site web. Ce site web était hébergé sur Windows Azure Website. Il faisait appel également au Windows Azure Mobile Services. Et voilà. Et donc, on a fait tout ça sur cet environnement Microsoft. Il faut savoir que c'est une techno qui est totalement ouverte. Vous le verrez tout à l'heure, Benjamin montrera le portail. Les SDK sont disponibles pour Android, pour iOS, et on supporte également les notifications push pour ces autres plateformes. Donc on aurait pu aussi faire des clients natifs sur ces plateformes-là. Je vais passer sur ma machine pour voir le code dans Visual Studio. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a On s'en doute, en fait, trois composants. On a la partie web que vous avez utilisée quand vous vous êtes connecté. Donc, je ne vais pas rentrer dans cette partie-là. C'est un site web ASP.NET qui présente une page où on peut rejoindre la réunion. On a l'application Windows 8 et l'application Windows Phone. On a également un projet Portable Class Library, c'est-à-dire un projet qui contient nos entités entre guillemets métiers. Dans cette application-là, c'est un meeting, un attendee et ce qu'on appelait un profil. Donc un profil, c'était je suis le CEO, je suis le développeur, je suis le testeur. Donc on a ces objets dans un projet portable, ce qui nous permet de le référencer côté web, côté Windows Phone, côté Windows 8, mais qui nous permettrait également aussi de l'utiliser côté iOS et Android si on utilisait Xamarin. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire ? En fait, je pense que c'est tout. Je vais laisser Benjamin montrer le portail pour créer le service.
Ok.
Et je repasserai après dessus.
Alors, côté Azure, la création d'un back-end mobile services se fait en quelques clics. Généralement, quand vous êtes sur le portail Windows Azure, vous avez ce gros bouton nouveau en bas. C'est à partir de là que tout commence. Je crée un nouveau back-end mobile services en lui indiquant un nom. Donc pour être sûr qu'il ne soit pas déjà pris, je ne vais pas prendre de risque. Je vais ensuite choisir dans quelle base de données je vais vouloir stocker mes données. Donc effectivement, il y a une partie stockage de données qui va être créée, un service de stockage de données qui est créé. Tout ça va être stocké dans du Windows Azure SQL Database, qui est de la base de données SQL Server en tant que service sur Windows Azure. Donc là, je vais pouvoir soit créer une base de données gratuite de 20 mégas qui va être gratuite pendant la première année, ou alors utiliser une base de données existante ou créer une instance de base de données, donc pas la version gratuite. C'est ce que je vais faire. Je choisis mon data center. Donc là, j'ai Europe du Nord qui correspond à Dublin. Il n'y a pas de data center Windows Azure en France. Une quinzaine de data centers dans le monde avec ceux qui vont ouvrir très prochainement. Il n'y en a pas en France pour l'instant et pas dans un futur proche non plus. Je vais également choisir le. Donc là, c'est le nom de ma base de données qui est très explicite. Je vais créer un nouveau serveur de base de données. Donc là, je vais quand même utiliser un vrai mot de passe parce que j'en aurai peut-être besoin tout à l'heure. Il me choisit le même data center, heureusement, sinon j'aurai un petit peu de latence. Et là, j'ai un service mobile qui va être créé. Donc on reviendra dessus plus tard, c'est un tout petit peu long, puisqu'il a besoin de créer un serveur de base de données, ce qui veut dire qu'en fait, il va en créer trois, puisqu'il y a toujours un primaire et deux secondaires. Il me crée dessus une base de données, il me crée des services, etc. Donc je vais pour l'instant utiliser celui-ci pour la démonstration qui a été créé en avance de phase. Donc là, sur la première page, sur ce dashboard, la première chose qu'on peut remarquer, c'est ce différent choix ici. C'est vraiment un choix qui est là juste pour vous présenter la bonne documentation, les bons outils, les bons SDK. Donc là, c'est les différents SDK clients qui existent pour Windows Azure Mobile Services. Windows Store pour les applications Windows 8, Windows 8.1, Windows Phone 8, iOS, Android, HTML, JavaScript que tu as utilisé pour le site web, et Xamarin si vous faites du développement Xamarin multiplateforme. Donc par exemple, si je suis dans Windows Store ici, je peux directement télécharger Visual Studio si vous ne l'avez pas déjà, créer une table, je vais y revenir juste après, et télécharger une application de démonstration. Mais tout se passe dans les autres onglets, finalement, à partir de l'onglet tableau de bord, c'est l'ensemble des services que va pouvoir gérer Mobile Services. Si je vais dans Données, je vais créer une table, je vais l'appeler ma table, je vais pouvoir définir un certain nombre d'autorisations sur les différentes méthodes les différents verbes HTTP finalement que je vais utiliser pour cette API REST. En fait, au-dessus de chaque table, je ne vais pas avoir une table au sens d'ailleurs SQL Database, c'est vraiment une table au sens finalement NoSQL, c'est un ensemble de lignes avec un certain nombre de colonnes, et Windows Azure Mobile Services va m'apporter une API REST au-dessus de ça. Donc en REST, ou avec, soit avec l'un des SDK qui existent ou directement en HTTP, je vais pouvoir accéder, insérer des données, mettre à jour des données, supprimer des données, etc., et je choisis l'autorisation que je souhaite utiliser. Soit tout le monde a le droit, soit seulement les personnes qui ont la clé d'application, je vais y revenir. Pour information, ce n'est pas un mécanisme de sécurité ici. Dès le moment où on veut faire de la sécurité, on va utiliser l'authentification. Ou alors seulement les administrateurs, je vais y revenir également. Donc là, je vais mettre tout le monde ici. Je valide. On a besoin de quelques secondes. Voilà. Oups. Dans ma table, j'ai évidemment la possibilité de rajouter des colonnes. Mais pour information, si je ne souhaite pas rajouter des colonnes dès le départ, c'est-à-dire si vous êtes vraiment en mode « je développe mon back-end comme ça vient », j'ai peut-être pas besoin de X colonnes aujourd'hui, mais peut-être que là, je vais avoir besoin de rajouter une date de saisie pour plus tard. Vous avez la possibilité d'activer ce qu'on appelle le schéma dynamique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez insérer un objet dans une table, si jamais cet objet a des colonnes qui n'existent pas dans votre table, elles vont être automatiquement créées. Donc ça, c'est très bien si vous êtes en mode développement, que vous êtes tout seul à développer, etc. Bien sûr, si vous planifiez un petit peu plus ou que vous êtes passé en production, on vous conseille de passer en inactif. Je repasse ici ma table. Je peux gérer également, une chose très importante, différents scripts qui vont être exécutés à chaque fois que j'ai besoin d'insérer, enfin que je vais insérer, mettre à jour, supprimer. Et le dernier, qu'est-ce que j'ai oublié ? Et lire, bien sûr, que je vais accéder à une donnée. Donc je suis allé un petit peu plus loin que prévu.
Mais on va s'adapter.
C'est très gentil.
Donc on va repasser côté dev. Donc là, on a préparé ce qu'il faut sur le portail. On a notre application. Maintenant, on va vouloir l'utiliser côté dev. Alors la première chose que je peux mentionner, c'est que dans Visual Studio, les outils Azure s'améliorent. Oui, on l'a dit ce matin, les cycles ils sont beaucoup plus courts, il y a des releases fréquentes, et il y a souvent des nouvelles fonctionnalités. Et une qui est disponible maintenant, c'est que dans l'onglet Server Explorer, vous pouvez accéder à votre compte Azure et vous pouvez accéder à votre service mobile. Donc là, on retrouve le service qui fait tourner l'application qu'on a en ce moment, dans laquelle on a nos trois tables. On reviendra dessus tout à l'heure. Donc ça, ok, on a accès à nos infos depuis ici. Ensuite, comment ça se passe côté vraiment développement, côté code ? C'est pas très original. On va aller chercher les librairies sur un package NuGet. Donc on va aller simplement. Alors là, ils sont déjà installés, mais juste pour vous montrer qu'ils existent bien. Si vous tapez Azure Mobile, normalement vous tombez dessus assez facilement. Bon, bah, voilà. Tac. Donc on l'a installé côté web, côté Windows 8, côté Windows Phone. Ensuite, une fois qu'on a ça, comment ça se passe côté code ? Là, on va regarder le code qui est exécuté quand j'ai créé le meeting. Donc, quand j'étais sur la première page, il y avait un champ texte, et après, j'ai appuyé sur « Créer le meeting ». Qu'est-ce qui s'est passé quand on a fait cette action ? Alors, j'ai oublié autre chose, c'est qu'avant avant d'insérer mon meeting, j'ai besoin de créer... l'accès en fait côté client au serveur au back-end. Donc ça c'était la première étape. On a besoin à chaque fois côté C#, on va créer un objet mobile service client. On a besoin de deux informations, l'adresse où se trouve le serveur et la clé. La clé, Benjamin pourra vous montrer tout à l'heure, oui. Sur le portail, on peut récupérer la clé de manière assez facile. Donc une fois qu'on a cet objet, le mobile service client, là on va s'intéresser à insérer des données. Donc on est sur la partie je veux créer un meeting. Quand on crée un meeting, qu'est-ce qui se passe ? On met à jour deux, trois choses dans l'IHM. Ensuite, on crée un objet meeting. Et alors on a encore des personnes qui rejoignent. Et on fait quoi ? On utilise le mobile service client, donc l'objet qu'on a créé tout à l'heure. On récupère la table des meetings et on vient insérer un élément. Alors sur cet aspect, on peut dire plusieurs choses. La première chose, c'est que l'objet qu'on insère, on va aller regarder, il n'a rien de particulier au sens C# ou héritage. C'est-à-dire qu'il ne dépend pas, il n'hérite pas d'une classe, c'est un objet POCO, C#, qui est juste décoré d'attributs pour définir comment il va être sérialisé en JSON quand on va l'envoyer au back-end. Donc là, j'ai simplement redéfini les attributs pour dire que je voulais les nommer avec des minuscules. Ensuite, vous avez vu que là, on fait un getTable meeting. Donc là, ça veut dire qu'on veut insérer un élément dans la table meeting. Et en fait, par convention, c'est un SDK qui fonctionne plutôt par convention, il va aller chercher le nom du type, meeting, il en fait une chaîne de caractères et il cherche la table qui porte ce nom-là. Si je ne fais rien de plus, quand je fais mes objets C#, ça fonctionne comme ça. Ensuite, j'insère l'élément, donc j'ai une opération d'insertion. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi ? On peut dire que c'est suffixé par async, donc on a l'idée que c'est une opération asynchrone, ça veut dire que ça va renvoyer une tâche. Et donc, dans le monde C# moderne, on va dire C# 5, on va utiliser le mot-clé await pour dire qu'on veut continuer le flow d'exécution de cette opération asynchrone quand elle sera terminée. Et donc, toutes les opérations comme ça vous allez voir, ça sera tout le temps suffixé de async. Donc il faut bien penser à utiliser le mot-clé await, et ça veut dire que c'est des opérations asynchrones. Donc là, on a inséré une donnée, on va aller regarder comment ça se passe quand on veut récupérer une donnée. Donc là, je vais aller sur l'écran où on était en attente quand il y avait le QR code. Vous avez vu quand il y avait la notification push qui arrivait, et après, la liste des attendees, elle se mettait à jour. Donc c'est ce code-là qui est exécuté. Très très simple, on fait quoi ? Toujours pareil, on utilise l'objet Mobile Service Client, on récupère la table, cette fois-ci attendee, on fait un toList async. Donc toList async, encore une fois, on utilise await pour récupérer le résultat qui nous intéresse, c'est une liste d'attendee. On peut mentionner autre chose, c'est qu'ici on a fait un filtre, donc on a fait un where, où on a dit on veut récupérer dans la table des attendee que ceux qui sont dans le meeting qu'on est en train de générer. Donc c'est la ligne que vous avez ici. Là-dessus, il faut savoir que le fait de faire ce where, il va être exécuté côté serveur. En fait. On ne va pas ramener toute la table et la filtrer côté client, ce ne serait pas efficace. Donc il y a un corollaire à ça, c'est que quand on fait .where, on écrit une expression lambda et on pourrait être tenté de mettre des choses très compliquées dedans. Et par exemple, de mettre une fonction à nous qu'on a définie plus loin et qui va comparer des éléments. Vous aurez une erreur si vous essayez de faire ça, parce que le SDK, il va regarder l'expression que vous avez mise dans le where, il va dire « je n'arrive pas à la transformer en quelque chose » que je peux donner au serveur. Donc il faut rester sur des choses très simples, comme on a vu le cas ici. Maintenant qu'on a vu, donc on peut insérer, récupérer des données, je ne vous montre pas, mais on peut, enfin, avec l'IntelliSense, on peut également aussi supprimer des éléments ou mettre à jour. La question qui se pose, c'est comment on sécurise tout ça. Donc je vais laisser Benjamin vous parler de cette partie.
Ok, donc mon backend Mobile Services QDQ FMLK, etc. a été créé. J'ai oublié de vous montrer quelque chose tout à l'heure, c'est quelque chose de très important, c'est la clé de l'application. Donc cette clé ici, que je vais pouvoir récupérer pour copier-coller dans mon application, va me permettre d'accéder à des données que j'ai protégées simplement en disant toutes les personnes ayant la clé. J'insiste cependant sur le fait que ce n'est pas un mécanisme de sécurité. Pourquoi ? Parce que cette clé, vous allez la stocker dans votre application, que vous allez déployer aux utilisateurs qui sont potentiellement et en sécurité, généralement, on ne leur fera pas confiance. Donc, ça, c'est la clé d'application que vous distribuez. Cette clé ici, c'est la clé d'administration. Celle-là, vous ne la distribuez jamais dans une application. C'est vraiment si jamais vous avez un back-office supplémentaire, par exemple, que vous allez pouvoir l'utiliser. Et vous avez ce quatrième niveau d'accès, si vous vous rappelez dans mes tables, vous avez un quatrième niveau d'accès qui indique les personnes avec la clé administrateur. Seuls les scripts et les administrateurs. Ok, donc maintenant au niveau de la fonctionnalité identité, donc la fonctionnalité authentification, on a la possibilité directement à partir de Mobile Services de se connecter à différents fournisseurs d'identité. Donc on a par défaut les comptes Microsoft, les comptes Facebook, les comptes Twitter, les comptes Google et depuis peu Windows Azure Active Directory. Donc concrètement, pour faire ça, il suffit d'aller créer une application chez Microsoft, sur Facebook, sur Twitter, etc. Vous allez déclarer une nouvelle application plutôt que créer. Et par exemple, Twitter va vous redonner une clé et un secret que vous allez pouvoir configurer ici dans Mobile Service. À partir de là, c'est Mobile Service qui va communiquer directement avec Twitter. Vous, votre application, elle va demander, on le verra tout à l'heure, elle va demander à Mobile Service une authentification de Twitter et le reste va être géré par Mobile Service, par les différents SDK. Donc ce que je vais faire, et vous l'avez peut-être vu tout à l'heure en plénière, mais on va le refaire, on va se connecter à Windows Azure Active Directory, qui est un fournisseur d'identité qui est cette fois plus orienté entreprise, qui est utilisé pour Office 365. Donc si jamais vous utilisez Office 365, vous avez déjà un annuaire Windows Azure Active Directory. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le créer totalement gratuitement. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié l'URL de mon application, l'URL, pas vraiment de mon application, parce que mon application, je raisonne vraiment en termes client, elle est sur mon device, c'est l'URL de mon back-end, Mobile Service. Je vais me rendre sur l'annuaire. Donc je vais prendre cet annuaire TechDesk que j'ai utilisé tout à l'heure, j'ai un certain nombre d'utilisateurs et des applications. Je vais pouvoir ajouter, en fait, déclarer une nouvelle application ici. Ça aurait été pareil côté Facebook, Twitter, etc. C'est le même principe, on déclare une application. Je lui donne un nom très original. Et c'est ici que je vais passer l'URL. Effectivement, je ne suis pas sur mon Lenovo, donc c'est inversé. je lui donne l'URL de connexion qui sert d'identifiant de l'application, son identifiant unique. J'indique que je veux une authentification unique, donc un SSO. Et à partir de là, l'application a été déclarée. Je vais pouvoir récupérer un identifiant unique, ici un GUID, qui va me permettre, une fois rentré dans mon backend Mobile Services, de terminer la relation de confiance qu'il va y avoir entre mon fournisseur de données, qui est donc Windows Azure Active Directory, mon fournisseur d'identité plutôt, et mon consommateur d'identité, qui est mon compte Mobile Services. Donc, je vais retourner dans Mobile Services. J'étais sur lequel ? Je crois que j'étais sur celui-là. J'ai un doute maintenant. Non, j'étais sur l'autre. Parce que si je me trompe, en fait, concrètement, ça ne pourra pas marcher, puisque derrière, si ça ne correspond pas, l'annuaire ne va pas accepter ma requête. Ok, une fois enregistré, le reste se passe côté client.
Tout à fait. Alors.
J'ai pas. Non, aujourd'hui, il faut faire un copier-coller, effectivement. Mais potentiellement, effectivement, il pourrait rajouter un bouton pour le faire automatiquement. Ce qui se passe, c'est qu'il y a potentiellement plusieurs annuaires Active Directory sur votre compte, donc il faudrait choisir. Mais oui, effectivement, le niveau interface, ça pourrait être amélioré un petit peu. Merci beaucoup. Mais en l'occurrence, on ne va pas l'utiliser, donc ça ira quand même. Mais c'est très sympa.
Alors, on repasse côté dev. Vous avez vu qu'on a l'authentification. Quand j'ai fait la démo, je vous l'ai montré sur l'appli Windows Phone. Donc, de manière très très simple, ça va aller vite, parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à faire. Côté Windows Phone, qu'est-ce qui se passe quand on veut faire l'authentification ? Encore une fois, on a notre objet Mobile Service Client avec l'URL, la clé d'application. On dit qu'on veut démarrer une opération de login à 5 et on donne le nom du provider qu'on veut utiliser. Donc, quand j'ai fait la démo tout à l'heure, et que je vous ai montré mon mot de passe, c'était avec Twitter. Quand je fais, du coup, au moment où cette ligne va être exécutée, on va naviguer vers là, en l'occurrence, c'était vers Twitter, on passe sur le suite Twitter, on s'authentifie et ça revient. Quand ça revient avec await, là, on exécute cette ligne-là et on peut récupérer le user ID. Donc, si je veux changer et je veux tester Azure Active Directory, je vais simplement faire ça. Je vais relancer l'application. Donc j'ai vraiment pas grand chose à changer côté dev. Je pourrais également en gérer plusieurs, c'est-à-dire je pourrais mettre les 4 boutons et dire authentifiez-vous avec Facebook, avec Google. Enfin, l'intérêt, ça peut être aussi d'en offrir plusieurs. Et ici, l'authentification, elle va être déléguée cette fois-ci à Azure Active Directory. Ou, alors je vais pas faire l'authentification parce que j'ai un faux mot de passe, je pourrais vous le montrer, mais on va essayer d'aller un peu plus vite. En gros, je mets login mot de passe et c'est le même système. Je reviens dans mon application et j'ai récupéré l'identifiant de l'utilisateur. On va repasser de ton côté pour parler des notifications.
En sachant que Jérémy a été très sympa, parce qu'il y a une chose que je n'ai pas faite, que j'aurais dû faire, c'est de configurer vraiment l'annuaire sur son application. Mais c'est de ma faute s'il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Alors, maintenant, on va parler authentification. Donc pour ça, j'ai besoin de mes slides. Voilà. Juste la théorie des push notifications sur les devices clients, vraiment très rapide. Ça se passe en 3 étapes. D'abord, un device, quel qu'il soit, donc que ce soit du Windows 8, de l'iOS, de l'Android, etc., va devoir demander un identifiant de channel avec la plateforme de notification avec laquelle il doit travailler. Par exemple, Windows 8 va travailler avec WNS pour Windows Notification Service. Donc ce device, il y a une API pour chacun des devices pour aller demander ce channel, va récupérer ce channel directement, et ensuite, vous allez devoir prendre cette identification, ce lien, et l'uploader sur une Azure Mobile Services. Par exemple, vous allez le stocker sur une base de données de device, sur une table de device que vous aurez créée, comme je l'ai fait tout à l'heure. Une fois que vous avez fait ça, donc vous aurez votre liste de devices avec leur type et leur channel URI, ou alors challenge token, comme ils appellent ça, côté iOS, avec la plateforme qui s'appelle APNS. Donc, une fois que vous avez fait ça, il y a tout ce qu'il faut côté Windows Azure Mobile Services. Une fois que vous avez configuré les différentes plateformes de notification qu'on va le voir tout à l'heure, vous pouvez, à n'importe quel endroit de votre back-end, donc que ce soit par exemple des tâches planifiées, ou alors que ce soit les scripts qu'on a pu voir quand on va insérer une donnée, par exemple, ce que je vous ai montré tout à l'heure, ou alors que ce soit quelque chose de totalement extérieur, on pourrait très bien imaginer un autre back-office derrière qui serait dédié à l'envoi de notifications. Donc vous allez envoyer une commande de notification à Windows Azure Mobile Services qui va se charger, lui, de communiquer avec les différentes plateformes de notification, quel que soit le device. Donc ça a l'air de rien comme ça, mais ce service qu'il vous rend ici, c'est vraiment énormément de messages qu'il va gérer pour vous. Tous ces messages-là, ça prend un temps certain, et en fonction du nombre de devices que vous avez, bien entendu, mais globalement, c'est à chaque fois, en fonction de la plateforme de notification, c'est à chaque fois un message pour un device. Donc si vous en avez 100 000 à envoyer, il faut que vous-même vous gériez l'infrastructure pour envoyer les 100 000 messages. Là, c'est automatiquement Windows Azure Mobile Services qui va le gérer pour vous. Donc côté portail, ça ressemble très fortement à ce qu'on a fait côté authentification, côté identité. On fonctionne avec une question secrète généralement et par exemple pour les applications Windows, le SID du package de votre application. Comme vous savez, les applications Windows 8.1, vous allez les publier via le store, et ce store, vous allez récupérer un SID pour votre package. Donc avec ces deux informations, Windows Azure Mobile Services aura tout ce qu'il faut pour communiquer avec la plateforme de notification Windows. On n'a pas Windows Phone ici, puisque par défaut, sur Windows Phone, on a droit d'envoyer... je ne sais plus combien, si tu te rappelles le nombre de messages. Non, il y a un certain nombre de messages qu'on a droit d'envoyer, je crois que c'est 500 par jour par device, donc assez pour faire qu'un utilisateur voudrait plus trop de votre application, généralement. Donc on n'a pas besoin de s'authentifier. Et après, c'est le même principe côté Apple ou côté Google. En l'occurrence, là, ça passe par un certificat. Ici, c'est simplement de la clé de l'API. Bref, le principe est assez similaire. Une fois que vous avez fait tout ça, côté serveur, côté back-end, tout est fait.
Alors, on va reprendre côté Visual Studio pour aller regarder comment ça a été géré dans cette appli Windows 8 PayMy Meeting. Donc, comme vous l'a dit Benjamin, il y a deux étapes. La première, c'est quand l'appli Windows 8 elle démarre, elle ouvre un channel de notification. Donc là, c'est le code qu'on a ici. Donc ça, c'est du code, ça n'a rien à voir avec Mobile Services, c'est plutôt des API de Windows, où on dit un truc très verbeux, Create Push Notification Channel. Ça ouvre le channel, et ce qui est important, ce qu'on récupère, en fait, c'est l'URI. Dans le monde Windows, c'est une adresse HTTP quelque chose qui permet d'identifier ma machine sur laquelle j'ai démarré mon meeting. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, dans notre application, c'est envoyer la notification. Vous avez vu quand quelqu'un rejoint la réunion. Donc comment on a fait ça ? Quand quelqu'un rejoint la réunion, en fait, peu importe que ça vienne depuis votre smartphone ou depuis l'appli Windows Phone, ce qui se passe côté Azure Mobile Services, c'est qu'on insère un élément dans une table. En l'occurrence, la table qu'on touche, c'est la table des attendees. Et sur cette table attendee, on vient rajouter un élément avec votre prénom et votre profil. Donc si on va voir avec l'outil qui est dans Visual Studio, sur cette table attendee, je vais pouvoir accéder au script. Donc là, ce que je vais vous montrer, le code que je vous montrais, on aurait pu le voir dans le portail, c'est exactement pareil. Et si je vais sur attendee et je prends insert.js, c'est ici qu'on va retrouver le code qui fait la logique que je viens de décrire. Donc comment ça fonctionne ? La fonction insert, elle va prendre trois paramètres. Elle prend l'objet qu'on va insérer dans la base, elle prend le user, dans le cas où vous êtes authentifié, et elle prend la requête à effectivement effectuer sur la base. Alors pourquoi elle prend la requête ? C'est pour qu'avant de l'exécuter, on puisse éventuellement la modifier. Dans notre cas, quand on insère un attendee, qu'est-ce qu'on fait ? On commence par exécuter la requête, donc on insère l'élément en base. Ensuite, si ça se passe bien, on tombe dans la fonction success. Dans la fonction success, qu'est-ce qu'on fait ? On va vouloir récupérer votre profil. Donc là, quand vous avez rejoint la réunion, j'avais juste votre prénom et un identifiant de profil, peut-être l'ID 1. Donc qu'est-ce que je fais ? Je vais lire la table des profils et je cherche celui qui a votre profil. Donc c'est en JavaScript, alors on n'est plus dans le async await C#, on va plutôt avoir des callbacks ou des promises. Une fois qu'on a lu ça, on a trouvé... Je vérifie que j'ai trouvé un seul profile, je récupère le profile, je calcule le prix à la minute que vous coûtez, et ensuite, il faut que je retrouve le meeting. Donc je refais une lecture, cette fois-ci sur la table meeting, je cherche le meeting qui est celui que vous êtes en train de rejoindre, et quand ça fonctionne, je tombe dans cette fonction-là. Donc là, il faut un peu suivre parce qu'on navigue à droite à gauche. Ici, on a trouvé notre meeting, et qu'est-ce qui nous intéresse sur notre meeting ? Eh ben, c'est l'URI de notification que je vous ai montré tout à l'heure, donc qui a été, au moment où le meeting a été créé côté Windows 8, ça a été inséré dans la table des meetings. Donc ici, je vais simplement lire sur l'objet meeting la propriété notification channel. Et ensuite, ici, je demande à l'infrastructure qui est autour d'Azure Mobile Services d'envoyer la notification avec un texte qui est new attendee et puis le prix que j'ai calculé auparavant. Voilà du coup ce qui se passe en mode script côté C#, aujourd'hui en JavaScript et très prochainement écrire aussi ce genre de choses en C#. On va regarder deux autres, Benjamin va vous montrer deux autres choses qu'on peut faire avec les scripts qui sont aussi intéressantes.
Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne c'est qu'on est à l'heure. La deuxième c'est que j'ai un souci avec le portail.
Ah, je peux regarder si je l'ai peut-être de mon côté.
Ouais, je crois que j'ai perdu le réseau.
Oui, je l'ai sur ma machine si tu veux.
Tu l'as ? Ok. Donc il y a deux autres services que j'aimerais bien vous montrer, si tu peux ouvrir s'il te plaît. La première, c'est les custom API. Donc on vous a montré qu'on pouvait avoir du code à chaque fois qu'on va effectuer une opération REST sur une des tables. Mais on peut également exécuter du code sur des opérations qui n'ont rien à voir avec des tables ou alors qui ont peut-être à voir avec plusieurs tables. Bref, des choses qui ne sont pas du REST, mais plus des opérations comme on peut en avoir côté web service classique. Donc là, globalement, j'ai une API, donc on appelle ça une API, une custom API, qui s'appelle GetBigOrganizer et qui a pour but de récupérer la liste des meetings les plus consommateurs. Donc là, on a la notion d'autorisation également sur les différents verbes HTTP. Donc comme tout à l'heure, on peut utiliser différents verbes HTTP pour cette API. Et ensuite, côté script, on a la possibilité de faire un tas de choses. Encore une fois, aujourd'hui, c'est du Node.js, donc du JavaScript côté serveur. C'est pas très compliqué à se mettre dedans quand on est développeur C#, mais il faut faire un petit effort. La bonne nouvelle que vous annoncez tout à l'heure, Sébastien, c'est que C# va être porté pour ces fonctionnalités-là. Donc là, ce que j'ai fait, c'est quelque chose d'un petit peu spécial, dans le sens où, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on était plutôt dans un monde NoSQL, où on n'avait pas de relationnel. Mais je vous ai aussi dit que les données étaient stockées dans une base de données relationnelle, qui était nos Azure SQL Database. En fait, je ne suis pas obligé d'utiliser l'interface REST qui est créée par Windows Azure Mobile Services pour accéder à mes données. Quand je suis côté serveur, ici, j'ai la possibilité d'accéder directement à mes données en mode relationnel en allant directement faire une requête. Donc là, j'ai une requête où le relationnel m'a beaucoup aidé parce que j'avais besoin de faire deux inner join, j'avais besoin d'utiliser des fonctions de SQL Server comme datedif, etc. Donc j'ai pu faire ça pour récupérer les trois meetings les plus consommateurs et calculer le coût du meeting directement en SQL. Une fois que j'ai fait ça, concrètement, les dernières lignes, c'est le callback qui est fait pour savoir si j'ai un succès ou un échec. Donc, à partir de là, je vais essayer de voir si ça refonctionne de mon côté. Ah non, je suis sur ma mauvaise machine. Alors, attendez, j'ai besoin juste d'une petite seconde. Parce que quand même, on était à l'heure, il faut quand même qu'on soit en retard, sinon ça ne serait pas drôle.
Toujours pas sur ta machine ?
Ouais, dans quelques secondes. Là, je suis en train de récupérer l'URL de ma custom API, puisque elle aussi, elle va être accessible en REST. Ça arrive. Voilà, tout est revenu de mon côté. API. Tac.
Si tu veux repasser, je vais mettre ta machine.
Ouais, je vais reconstruire l'URL avec le nom de mon compte mobile services /API/getBigOrganizer. À partir de là, il me propose l'ouverture d'un fichier JSON qu'il aurait pu m'ouvrir dans le navigateur, mais il ne me le fait pas. Et là, donc j'ai du JSON qui m'a été retourné avec mon résultat concrètement, qui est l'owner. Donc apparemment, il y a l'or qui va avoir des problèmes. La date de fin, la date de début de la réunion, le nombre de secondes, le coût, etc. Mais ça, concrètement, ce format-là, il est sympathique pour communiquer avec des machines. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est envoyer toutes les semaines, par exemple, un rapport au CEO. Donc chez nous, ça serait Satya Nadella depuis quelques jours. Donc pour lui dire qui sont les organisateurs, enfin plutôt, quels sont les meetings les plus consommateurs. Donc pour ça, j'ai utilisé une autre fonctionnalité, c'est la fonctionnalité de planification. En anglais, je crois que sur le portail, c'est scheduler. Et j'ai créé une tâche qui s'appelle Send Email to CEO, sur lequel, même principe, je vais avoir un onglet script sur lequel je vais pouvoir coder quelque chose. Encore une fois, je vous la refais, Node.js, bientôt c'est Sharp. Je vais détailler le script juste après, mais j'ai la possibilité de dire, de lui indiquer des éléments de planification. Ici, je veux le mettre tous les 7 jours à 8 heures du matin. Ou alors, j'aurais pu dire à la demande, et j'aurais pu l'exécuter ici directement. Donc mon script, c'est celui-ci. La première chose que je vais faire, c'est de récupérer un objet SendGrid. Donc SendGrid, c'est un de nos partenaires avec qui on travaille pour l'envoi de mail. Dans Windows Azure, vous n'avez pas de service d'envoi de mail as a service, finalement. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de mettre un serveur SMTP sur une de vos machines, mais on va fortement vous le déconseiller, puisque potentiellement, vous pouvez récupérer l'IP d'un autre client qui l'a utilisé pour des choses frauduleuses, pour envoyer des spams par exemple, ou qui s'est fait blacklister de manière tout à fait honnête, ça peut arriver. Donc généralement, ce qu'on va conseiller à nos clients, c'est de passer par un prestataire d'envoi de mail, des personnes dont c'est le métier de tenir à jour des beaux listings où ils ne sont pas blacklistés, avec des IP toutes propres, etc. Donc SendGrid, c'est le partenaire avec qui on travaille majoritairement, mais ça, c'est un choix que vous pouvez faire. Ensuite, je récupère un objet qui va me permettre d'accéder aux éléments de configuration de mon mobile services. Je ne détaille pas tout non plus, HTTP request pour faire des requêtes HTTP. Et globalement, je vais dans mon script tout simplement faire une requête à l'URL de ma méthode getBigOrganizer que j'ai créée tout à l'heure. À partir de là, y a un petit peu de plomberie, mais globalement, je vais parser le JSON. Je vais aller voir tous les éléments du meeting et je vais pouvoir générer un mail qui va être envoyé grâce à une petite fonction utilitaire que j'ai montrée ici. Donc, il va me falloir une minute pour récupérer l'email. Si t'as d'autres choses à dire que j'aurais oublié...
Sinon, je peux refaire un tour... Sinon, je refais un tour sur les services et puis on le montre après quand tu veux.
Ouais, très bien.
Ah, mais t'as pas parlé des prix.
Le prix ? Mais pourquoi tu veux qu'on parle du prix ? C'est pas grave. Je vais essayer de pas taper mon mot de passe. Vous le voyez pas à l'écran ? Ça, c'est ma grande crainte que je le vois pas ici, mais que vous le voyez en clair. Facture d'achat ? Ok, donc c'est mes vrais mails, ils sont enregistrés, tout va bien. Et là, je vais aller voir. Bon, c'est pas un qui dernier. A été envoyé tout de suite. Voilà, je l'avais un petit peu mieux formaté dans la dernière version, mais globalement, le mail est envoyé de cette façon-là. Vraiment très simple. Il a fallu pour ça de 20-30 lignes en JavaScript. En l'occurrence, c'est pas moi qui est l'organisateur. Voilà, plutôt celui-là. Voilà, c'est mieux avec Laure et Romain. Avec des prix un peu plus conséquents. Donc voilà, ça c'est pour vous montrer la fonctionnalité des tâches planifiées qui est une des fonctionnalités qui est disponible dans Windows Azure Mobile Services et globalement on va récapituler tout ça mais juste avant, un petit point sur la tarification. Donc vous avez trois niveaux dans Windows Azure Mobile Services. Le premier c'est le niveau gratuit, bon, il est gratuit donc il vient avec certaines restrictions. La première restriction c'est le nombre de services gratuits que vous pouvez avoir par compte Windows Azure, 10, ce qui est déjà pas mal, mais surtout vous avez maximum 500 périphériques actifs sur la même journée. Donc si vous avez 1000 périphériques, vous pouvez passer votre chemin. Ensuite, l'élément différenciateur entre les trois, à part les restrictions de la partie gratuite, c'est vraiment le nombre d'appels à l'API par jour. On passe de 500 000 sur la version gratuite à 1,5 million par unité pour la version de base, 15 millions pour la version standard. Donc par unité, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand vous choisissez le tiers, le niveau de base, en français c'est, en anglais c'est basique, hein, c'est un peu plus sympa, vous allez pouvoir dire combien d'unités vous voulez. Si vous avez besoin de 5 millions d'appels à l'API, globalement vous allez dire je veux 4 unités de base. Ou alors je veux une unité standard, puisque vous avez potentiellement besoin de plus d'exécution, de tâches planifiées, qui est une autre une autre métrique en fait, qui va vous permettre de choisir. Donc, ce qui est important également, c'est que vous allez pouvoir, une journée, avoir besoin de 5 unités, mais le lendemain, peut-être de 2. Donc, vous allez devoir passer à l'échelle, ce qu'on appelle, voilà, ce qu'on dit mieux en anglais encore une fois, scaling. Donc ça, ça se configure ici, dans l'onglet « Mettre à l'échelle », où vous allez retrouver donc, les différents niveaux dont je viens vous parler, le nombre d'unités que vous pouvez choisir avec ce petit slider, mais vous allez également pouvoir configurer des heures ou des périodes dans la semaine sur lesquelles vous aurez besoin potentiellement de plus d'unités. Par exemple, la semaine et pas le week-end, c'est une application professionnelle ou l'inverse. Bref, et même jusqu'au niveau des heures. Ou alors en fonction des appels à l'API. Par exemple, si votre seule métrique de scaling, de passage à l'échelle, c'est le nombre d'appels à l'API, automatiquement, Windows Azure, dès que vous approchez la limite, il va vous rajouter une unité supplémentaire. Donc, si vous avez 1,5 million avec une unité, mais que vous dites, OK, minimum, j'en veux une, mais je peux aller jusqu'à 4, et bien, il va augmenter tant que vous n'êtes pas à la limite. Si vous arrivez à 4, il n'en mettra pas plus, et à la fin de la journée, vous aurez payé pour 4. Le lendemain, on recommence à 0, il vous en met une, et il augmente petit à petit. Donc, le scaling, vraiment, vraiment très, très simple ici au niveau Windows Azure Mobile Services. En fait, il ne peut pas redescendre dans la journée, parce que imaginez, vous avez déjà utilisé votre première unité, vous avez déjà utilisé vos 1,5 million, il ne va pas redescendre, c'est vraiment par jour. Vous avez 1,5 million d'appels à l'API par jour dans la version basique. Si vous les avez utilisés, bah c'est, voilà, pour ce jour-là, vous les avez utilisés. Par contre, il redescend le lendemain à minuit. En conclusion ?
On fait peut-être, est-ce qu'on fait les, il nous reste deux slides, peut-être on déroule les slides, oui, et après on prend les questions. Du coup, conclusion, vous voulez reballayer avec vous les services qu'on a vus. On a vu le stockage des données, avec les autorisations qui vont avec, les notifications, l'authentification facile, du coup, à intégrer, pas que dans le monde Microsoft, avec un compte Google, un compte Facebook. On a vu la logique serveur, les exemples qu'on vous a montrés en JavaScript. En général, on va faire plutôt des petites choses, on ne va pas faire des choses énormes. En tout cas, aujourd'hui, c'est en JavaScript et très bientôt en C#. La mise à l'échelle, ben Benjamin en parlait juste maintenant. Ce qui est log et diagnostic, on ne vous a pas montré, mais dans les scripts, on peut écrire des logs et on a une vue dans le dashboard avec tous les logs. Et puis également le planificateur qui peut faire des choses en arrière-plan pour nous. Et on a dépensé quand même 1 350 € sur ce meeting.
Bon, là, c'est pas si mal. Si vous avez envie de tester, vous avez la possibilité, si vous êtes abonné à MSDN, d'avoir 115 € de ressources mensuelles. Donc, ça, c'est tous les mois. Vous avez déjà ce bénéfice-là si vous êtes abonné à MSDN. Il suffit de l'activer. Vous avez le droit jusqu'à 115 €, je devrais dire, parce que c'est en fonction de votre niveau MSDN. Si vous n'êtes pas MSDN, que vous êtes partenaire, vous avez potentiellement la même chose côté partenariat. Et si vous n'êtes ni l'un ni l'autre, ce qui est dommage, vous pouvez quand même avoir une version d'essai qui va vous donner 150 € de ressources Windows Azure que vous pouvez consommer, je crois que c'est pendant un mois. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pendant encore 10 minutes et moi j'ai encore un petit peu de temps après.
Merci beaucoup pour votre attention.
Merci beaucoup.